Parce que nous savons qu'il nous a tant aimés. C'est pour cette raison que nous pouvons aussi lui apporter ces cantiques glorieux. Nous sommes merveilleux, nous sommes heureux de ce que nous sommes rachetés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et personne est capable de nous ravir de ses mains. Et personne n'est capable de nous discuter notre position de fils. Si les hommes le font, qu'ils le fassent. Ils ont ici essayé avec tous les hommes de Dieu de le faire et avec notre Seigneur lui-même. Mais il était ce qu'il était. Et ça, nous pouvons aussi dire dans nos jours, si nous sommes rachetés, si nous sommes délivrés, si nous avons fait l'expérience avec le Seigneur, personne ne peut nous discuter cela. Personne. Que des hommes disent beaucoup de choses. Les jugements sont différents, on peut les énumérer, mais nous n'avons même pas besoin de le faire. Nous voulons servir Dieu et Dieu seul. Mais vous savez, chacun est manifesté, est ouvert devant Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Nous pouvons faire ce que nous voulons, nous sommes ouverts devant lui. Rien n'est caché devant lui. Autrefois, alors que notre Seigneur marchait sur cette terre, par exemple, il y avait cette chose ici avec ces gens, si nous voulons le lire, peut-être dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 31. 12, verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants, comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Je ne sais pas, mais pour nous, en tant que croyants, ces paroles sont précieuses et importantes et précieuses et saintes, que nous ne pouvons rien faire d'autre que de demander à Dieu qu'il puisse accorder sa grâce. Et notre Seigneur, autrefois aussi, il connaissait leur cœur, il savait ce qui était dans chacun d'eux, dans leur cœur. Et il pouvait leur dire, vous, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Ceux qui prétendent être croyants, des gens qui prétendent être croyants, ils peuvent être comme ça, se montrer joyeux, gentils, etc. Mais ils peuvent aller et attrister le prochain, tuer le prochain, parler mal du prochain. C'était comme ça autrefois. Et là, les choses n'ont pas changé jusqu'à dans nos jours. Ils prétendent qu'ils sont croyants. Mais ils sont méchants. Et de leur parole, de leur bouche, est manifestée l'amertume qui est dans leur cœur. Mais alors, l'irritation, on ne peut pas dire qu'un tel homme est croyant. Il croit, mais il croit quoi? Il croit ce qu'il veut. Mais si on croit la parole de Dieu, alors nous savons que Dieu n'a pas encore changé. Car dans Malachie, il est écrit au chapitre 3, au verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Vous n'avez pas arrêté d'être enfants de Jacob. » Croyons-nous cela? Je crois que nous ne pouvons rien faire d'autre que de croire à la parole de Dieu. Et les paroles, les Écritures ne font pas de paroles vides. Il est écrit ici, car les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Mais bien aimé, notre Seigneur a pris ces exemples précieux et aussi concernant l'arbre. Chaque bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits, mais seulement des fruits qui sont bons. Un bon arbre ne peut pas parler mal contre son prochain, attrister, calomnier, blesser, faire ceci et cela, être méchant. Il peut que dire et parler de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et les autres peuvent le voir. Mais si d'autres choses apparaissent et de l'abondance du cœur, la bouche parle, elle ne peut rien faire d'autre. Et cela va bientôt être manifesté, ce que chacun est. Mais bien aimé, nous voulons appartenir à ceux de leur bouche sort, dont de leur bouche sort seulement ce qui est dans la volonté de Dieu. Ce qui plaît à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit, rien d'autre. Car le reste vient de l'autre côté. Calomnie, animosité, irritation, méchanceté, parler mal de quelqu'un ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Et on peut peut-être même écouter ses paroles, comme ils l'ont fait aujourd'hui aussi. Ils écoutaient la parole de la bouche du Seigneur, mais ça ne leur a servi à rien. Ça ne sert à rien. Nous pouvons ici vieillir sous le coup de la parole, si ce n'est que Dieu accorde sa grâce, pour que nous laissons le Seigneur transformer notre vie par la grâce de Dieu. Sinon, nous allons dans la perdition. Et nous pouvons avoir écouté la parole à chaque heure et à chaque fois qu'il y avait des réunions. Mais si nous n'avons pas changé notre vie, tout a été en vain. Notre course, notre marche, tout ce que nous avons fait était en vain. Si ce n'est que nous commençons à demander au Seigneur vraiment de nous transformer et à demander au Seigneur de tout notre cœur qu'il puisse nous faire grâce. Sinon, nous ne pourrons pas nous en échapper. Mais bien aimés, frères et sœurs, que le Dieu fidèle, cet après-midi, par son bon Saint-Esprit, puisse continuer à nous conduire et à nous diriger. Nous voyons et savons que nous sommes dans les derniers jours, arrivés dans les derniers jours. Et Dieu, d'une manière si merveilleuse, s'est révélé à son peuple et nous a parlé. Et parle encore avec nous. Il veut nous préparer, nous, pour son avènement, pour son retour proche, pour que nous soyons là où il est. Alors cet après-midi, nous voulons lui apporter l'honneur et l'adoration. Nous voulons le faire. Levons-nous. Dieu fidèle, nous te remercions de tout notre cœur, aussi pour cette heure et pour les heures que nous venons de passer. Nous te remercions pour la bénédiction que nous pouvions recevoir de ta parole. Tu as parlé si sérieusement avec nous. Tu te soucies de ton peuple comme autrefois, comme dans le temps des apôtres et des prophètes. Encore dans nos jours, tu es en souci pour ton peuple et tu veux le préparer. Tu veux que ton peuple soit prêt, bien disposé pour ton apparition proche, pour ton retour. Tu as parlé avec nous, tu nous as révélé les mystères cachés en tant que ton peuple, en tant que tes enfants. Nous ne pouvons rien faire d'autre que d'élever ton saint nom et de te louer, car tu es notre Dieu. Et à toi seul appartient la louange, l'adoration, et encore cet après-midi, dans le nom de Jésus. Amen. Nous nous asseyons. Nous nous sommes remerciants au Seigneur aussi pour cette réunion. Ce que j'avais à dire ce week-end, je l'ai déjà fait. Et nous sommes malgré tout reconnaissants de ce que nous pouvons être ensemble pour nous réjouir de la communion avec Dieu et de la communion les uns avec les autres. Donc ne vous fâchez pas, car nous allons encore lire plusieurs écritures là-dessus. Et je suis sûr que Dieu, par sa parole, toujours veut nous parler et va nous parler si nous l'attendons et dans la foi le recevons. De lire 1 Corinthiens 13 maintenant vient du fait que nous avons chanté ce cantique tout à l'heure, que ce cantique a été chanté. Ça, nous voulons le faire maintenant, tout de suite lire 1 Corinthiens 13. C'est le chapitre qui parle de l'amour de Dieu, pas de l'amour que nous pouvons apporter de nous-mêmes, produire, mais de l'amour que Dieu nous donne. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il est écrit au premier verset: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ces paroles sont aussi vraies que toutes les autres qui sont écrites dans les Saintes Écritures. Et l'amour duquel il s'agit ici, laissez-moi vous le dire, ce n'est pas un amour humain, mais un amour divin tel que sur la croix à Golgotha, il a été révélé. Dieu a tant aimé le monde. Et seulement celui qui a été, qui a reconnu cet amour et qui a été appelé à sortir par cet amour, qui a expérimenté cela, c'est celui-là qui aura le même amour divin dans son cœur, répandu par cet esprit. Et ça, c'est l'amour qui n'est pas dépendant des circonstances, de la météo ou bien des situations, qui n'a jamais commencé et qui ne cessera jamais. Et c'est de ça que la parole de Dieu rend témoignage. C'est l'amour de Dieu. Et si tout le reste n'existera plus, cet amour de Dieu reste éternellement, demeure éternellement. Et heureux les hommes qui l'ont reçu, qui l'ont vraiment reçu. Et vous savez, selon Galates chapitre 5, l'amour est l'un des 9 fruits de l'esprit. Les dons, on peut les prendre, on peut les recevoir, les donner, mais un fruit, on ne peut pas le prendre, le donner, le recevoir. Un fruit doit croître. Avant de croître, avant qu'il puisse croître, il faut que quelque chose soit été planté. Un arbre planté près des courants d'eau qui porte ses fruits en sa saison. Et c'est peut-être raison qu'il est important que ce n'est pas seulement que nous soyons devenus croyants, pas seulement que nous ayons cru, mais que nous puissions nous placer à la disposition, nous tenir à la disposition de Dieu pour qu'il puisse, c'est vrai, révéler sa parole, nous faire connaître ses mystères, mais que l'amour soit placé au-dessus de tout. Celui qui a cet amour divin, il peut avoir la plus grande des connaissances. Il ne la jugera jamais aussi bien qu'il pourrait faire avec l'amour. Avec l'amour. Jamais plus important que l'amour. Et maintenant, cet amour-là, il ne pourra jamais l'estimer plus important que l'amour. Et ici, maintenant, l'amour est décrit. Parce qu'on peut se donner toutes sortes d'imaginations sur l'amour. Tout ça ne servira à rien. Ici, l'amour est décrit. L'amour est décrit. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Ne s'enfle pas en allemand. Ne s'enfle point d'orgueil. Ne fait rien de malhonnête en allemand. Il n'est pas sans égard aux autres. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. En allemand, il ne devient pas amer. Il ne soupçonne point le mal. En allemand, il n'impute pas le mal. Il ne soupçonne point le mal. Il ne l'impute point. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. En allemand, il couvre tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Maintenant, nous pouvons nous examiner si nous avons cet amour, si nous avons reçu cet amour répandu par le Saint-Esprit. Et si nous pouvons, s'il vous plaît, pas l'un examiner l'autre, mais tel qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, que chacun s'examine lui-même. Et si, donc, nous regardons dans cette parole comme dans un miroir divin, alors nous pouvons tout de suite constater si nous sommes devenus comme ça et que nous sommes comme ça. Est-ce que les choses dans notre vie sont manifestées ainsi? Est-ce que ces choses sont révélées dans notre vie aux autres? L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. En allemand, l'amour est sans jalousie. Quand Dieu utilise quelqu'un et le bénit, s'il y a de la jalousie en nous, qu'est-ce qui se passe alors? Chaque homme qui appartient au corps du Seigneur est libre de jalousie, d'envie, de toutes ces choses. Il est vraiment baptisé dans le corps du Seigneur par le Saint-Esprit. Et si dans ces jours, nous avons parlé du Seigneur et de l'Église, et si nous nous représentons ça aussi devant nos yeux et recevons ça dans notre cœur, ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13. Car comme le corps est 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Car nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ici, l'apôtre ne parle pas d'une église quelconque, mais de l'église de Dieu qui appartient à Dieu, l'église du Seigneur qui appartient au Seigneur. Et je crois que tous, nous avons un seul désir, c'est d'appartenir à cette église-là des premiers-nés. Hébreux 12, verset 22. À cette église-là, qui, de la part de Dieu, a été justifié, racheté, délivré, purifié, sanctifié, réconcilié avec Dieu et achevé. Que nous sommes encore en chemin vers cela, c'est vrai. Mais nous avons un but devant nos yeux et nous savons que, avec l'aide de Dieu, nous l'atteindrons. Le corps du Seigneur est constitué de plusieurs membres. Et ici, il est dit encore au verset 20. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Mais il n'y a qu'un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de vous. Alors, si nous nous observons nous-mêmes, nous nous considérons nous-mêmes, notre vie de croyant, nos expériences avec Dieu et peut-être aussi avec l'un et l'autre, alors nous nous tenons devant cette grande question. Est-ce que nous avons résisté face à l'épreuve? Est-ce que nous avons tenu ferme? Est-ce que nous avons... Est-ce que nous avons veillé à ce que tout soit conservé ensemble, l'œil, la tête, le pied, etc. Que tout soit conservé ensemble, tout ce qui appartient au corps du Seigneur, ou bien alors nous sommes déchirés, nous sommes divisés, nous sommes éloignés les uns des autres, comme si le corps du Seigneur n'aurait pas d'importance pour nous, de signification pour nous, comme s'il serait divisé. Et nous sommes allés seuls, solitaires, nous sommes retirés, nous sommes sortis, nous avons formé notre propre groupe et nous pensions par cela atteindre le but. Je vais vous dire, personne ne pourra atteindre le but de lui-même, de sa propre manière. Nous devons ensemble, là, et tout ce qui vient sur nous, nous devons le supporter, et tenir ferme, et rester face à l'épreuve fidèle. Et nous devons partager l'un avec l'autre douleur et joie. Nous ne pouvons pas faire comme autrefois la foule l'a fait, de ce que subitement, quand le Seigneur devait être livré et que l'épreuve avait atteint son point culminant et qu'il révélait la parole et que c'était comme une épée dans leur âme, beaucoup ne le suivaient plus, mais se sont retirés. Et il a dit, mais si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, pour eux, c'était aussi à Chopin. Ils ont dit, mais comment est-ce qu'il peut nous donner sa chair à manger et son sang à boire? Ils suivaient le Seigneur. Ils ont été guéris et bénis, guéris de leur maladie et guéris, sans avoir compris ce que Dieu avait comme intention avec eux. Mais bien aimés, nous devons dans ces jours comprendre ce que Dieu veut avec nous. Et nous devons rester solidaires, quoi qu'il arrive. Nous devons suivre le Seigneur à tout prix et aussi nous devons nous soutenir parce que nous avons besoin l'un de l'autre, comme nous l'avons lu. La main ne peut pas dire, je n'ai pas besoin du reste du corps. Qu'est-ce qu'est le corps sans les pieds, sans les mains, sans les yeux, sans la tête? Et qui sait qui est quoi? Donc, nous devons veiller à rester ensemble, à nous soutenir et ainsi donner la possibilité pour permettre à Dieu d'utiliser les différentes fonctions des membres dans le corps de Jésus-Christ selon la mesure de l'appel divin et de la nécessité pour qu'ils puissent remplir leur ministère et exécuter leur commission. Chaque membre. Mais nous avons dit, et hier aussi particulièrement, nous l'avons traité, ce sujet, concernant notre Seigneur, qui avait commencé l'œuvre, qui a fondé l'Église et qui a dit, les portes du séjour des morts ne prouveront pas contre elles. Ils vont que le séjour des morts puisse se soulever et tout l'enfer. Et laissera le monde entier tranquille, car le diable a le monde déjà entre ses mains. Mais ils vont se soulever avec puissance et se jeter sur le peuple de Dieu. Mais notre Seigneur, n'est-ce pas, a prié pour nous que notre foi ne cesse pas et que nous puissions résister et tenir ferme, et particulièrement maintenant, c'est court avant le but. Si des gens depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans suivaient le Seigneur, cela ne leur sert à rien si ils ne persévèrent pas jusqu'à la fin, s'ils n'ont pas tenu ferme jusqu'à la fin, pour ensuite à la fin être couronnés. Celui qui persévère jusqu'à la fin, il sera couronné. Mais bien aimé, si nous parlons de l'amour de Dieu, Alors nous devons nous-mêmes savoir que nous sommes nous-mêmes des élus et des bien-aimés et que chez nous, avec nous, il faut qu'il s'agisse du même amour et il s'agira du même amour divin, sans exception de personne. Pas aimer seulement ceux qui nous aiment. Et ici, cet amour est décrit à partir du verset 4. Cet amour est patient, est plein de bonté, est sans jalousie. L'amour n'est point envieux, l'amour n'est sans jalousie. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, donc il n'est pas sans égard contre son prochain. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne devient pas amer, il ne soupçonne point le mal. Oh, combien de soupçons existent ? En allemand, il n'impute pas le mal. Il ne facture pas le mal en allemand. Il ne facture pas le mal. Hein? Combien de factures sont faites? Hein? Chacun facture à l'autre ceci et cela. Mais qui va aller chercher le reçu? Tout est facturé, est soupçonné, imputé. Mais qui va chercher le reçu? Qui veut payer? Avec qui voulons-nous avoir affaire? Avec qui? Ici, nous est dit que l'amour ne se laisse pas irriter, ne s'irrite point, ne devient pas amer, ne soupçonne point le mal, ne facture pas le mal, n'impute rien au mal, au prochain. N'exige pas et dire, ça maintenant tu dois rembourser, tu dois payer. Ça tu l'as à payer. Sur la croix du calvaire à Golgotha, cela a déjà été payé. Et pour toi et pour moi, une fois pour toutes, depuis le commencement jusqu'à la fin, tout ce que nous voulions nous facturer l'un à l'autre, toi à moi, moi à toi, tout cela a été facturé à notre Seigneur et Sauveur. C'était justement, c'était le grand acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et cet acte-là, les actes ont été effacés. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en un spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Pourquoi est-ce que nous devrions encore nous laisser emporter par ces autorités des ténèbres et nous laisser irriter et vouloir donner une facture à notre prochain, peut-être même un acte de condamnation encore. Non, celui vraiment qui a reçu l'amour de Dieu, l'amour divin, ne se laisse pas irriter, ne s'irrite point, ne s'irrite jamais. Il ne facture pas le mal, ne soupçonne pas le mal, n'impute pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Et l'amour couvre tout. Pas seulement excuse tout, couvre tout, ne diffame rien. Il couvre tout, il pardonne tout, il croit tout, il supporte tout. Ça, c'est l'amour divin. Nous, en tant qu'hommes, nous penchons à découvrir, à diffamer, à dévoiler. Mais chez qui? Chez qui? Chez nous? Non. Bien sûr, non. Si nous... N'est-ce pas? Quand nous voulons le faire, c'est jamais chez nous. Hein? C'est toujours chez les autres qu'on veut découvrir, dévoiler, diffamer. Et là déjà, nous n'avons pas compris le programme de Dieu et nous ne sommes même pas une partie de ce dessein de Dieu. Parce que nous ne sommes pas encore devenus, parce que nous sommes toujours en train de vouloir découvrir, dévoiler, diffamer les actes des autres. Nous sommes toujours là, c'est toujours les autres que nous avons devant les yeux. Non, l'amour couvre tout, pardonne tout, croit tout, ne s'irrite point, l'amour ne cesse jamais. L'amour ne périt jamais. Nous avons entendu beaucoup d'écritures. Il faut que ce soit un amour animé par l'esprit, produit par l'esprit. Et ici, c'est écrit aussi dans Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 8. Et il nous a appris de quel amour l'esprit vous anime. Il nous a appris l'amour que l'esprit a produit en vous. Un amour produit par le Saint-Esprit. En être animé. Et ensuite, ici, au verset 13, il est écrit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà comment il a fait. Ça, ce sont des choses précieuses, des vérités bibliques que nous ne pouvons pas détourner. La question est la suivante. Est-ce qu'elles sont seulement écrites dans les Saintes Écritures ou bien est-ce qu'elles sont aussi vraies dans notre vie en tant qu'une preuve divine qui a été apportée? Si nous ne sommes pas encore animés de l'amour de l'esprit, ça veut dire que nous ne sommes pas encore délivrés de la puissance des ténèbres. Si ces choses sont seulement écrites dans la Bible, ça ne suffit pas. Mais si ces choses ont été révélées, manifestées ainsi dans notre vie, dans le contexte dans lequel c'est écrit, alors nous pouvons nous en réjouir. Ici, par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 11, il est écrit, 2 Corinthiens 13, verset 11, « Au reste, frères, soyez dans la joie, laissez-vous guider. » Perfectionnez-vous, ici c'est « laissez-vous guider » en allemand, « redresser ». Laissez-vous reprendre, accepter les réprimandes, la correction, l'avertissement. Consolez-vous avec ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Aujourd'hui, chacun veut reprendre l'autre. Chacun veut reprendre l'autre, mais personne supporte qu'on le reprenne. Chacun veut redresser l'autre, mais supporte pas qu'on le redresse. Et dans Romains 12, il est écrit, dans Romains 12, verset 8, il est écrit que celui qui corrige, qu'il s'exerce à la correction par celui qui veut s'exercer à ce ministère. Mais celui que Dieu veut utiliser pour le faire, mais plutôt celui que Dieu veut utiliser pour reprendre au temps convenable, de la manière convenable, pour que Dieu accorde un succès et que ce ne soit pas comme résultat un échec humain. Mais bien-aimés, nous sommes encore très loin de tout ça, d'être une église biblique du Dieu vivant. Nous n'avons pas honte de le confesser, de le reconnaître. Et nous disons encore à cela, nous ajoutons encore à cela, ça nous le confessons de tout notre cœur, nous le reconnaissons de tout notre cœur, parce que nous savons que si nous reconnaissons nos manquements, alors Dieu pourra nous aider. Mais si nous disons, je suis riche, je sais tout, je n'ai besoin de rien, je connais tout, j'ai tout, et le Seigneur devra nous dire, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, et tu dis que tu as rien, tu es riche, tu as besoin de rien. Je te conseille. Donc, vous voyez, nous voulons toujours de tout notre cœur donner raison à Dieu et à sa parole. Et alors, les choses iront bien. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, il est écrit, à partir du verset 6, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Donc, si nous lisions le verset avant, peut-être que nous devrions le faire à cause du contexte. Ici, il est écrit, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capable de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Non, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Est-ce que cela n'est pas un témoignage merveilleux? Un grand homme de Dieu donne au Seigneur tout l'honneur. Et combien de fois nous l'avons dit en insistant, tant que il était assis au pied d'un Gamaliel. Il avait beaucoup d'instructions qu'il avait reçues en lui. Et plus quelqu'un est instruit, plus il était instruit et plus ça le vidait dans son cœur. Mais une seule rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ lui a pris son instruction. Et lui a accordé la révélation par la grâce de Dieu. Et c'est ici le témoignage que du Seigneur lui-même et de Paul d'une manière particulière C'est le témoignage qui nous a été transmis. Jésus-Christ, notre Seigneur, dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est au ciel. La révélation divine est ce qui compte. La lettre, même le diable l'a utilisée alors qu'il vint à Jésus-Christ, notre Seigneur, et disait, dans Matthieu 4, verset 6, il est écrit, il dit, « Jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ça ne suffit pas d'utiliser la lettre de la parole. Nous devons avoir une autorité divine pour utiliser les Écritures. Et les Saintes Écritures disent ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Donc, laisse ça, arrête ça. Et si Dieu nous insère dans le corps pour un ministère, et nous savons que il y a 5 ministères, si nous n'avons pas été insérés par Dieu lui-même, ça veut dire que nous nous insérons nous-mêmes, établissons nous-mêmes. Et alors, nous aurons notre propre programme, ou bien alors le programme de l'Église dans laquelle nous sommes, ou bien à laquelle nous appartenons. Mais si c'est Dieu qui nous insère, alors nous allons lui frayer le chemin en annonçant ses droits. Et l'Esprit viendra et vivifiera la parole. Et ce ne sera pas la lettre. Et alors tous seront enseignés par Dieu et seront vivifiés par la parole et l'Esprit de Dieu. Alors ce ne sera pas un qui enseignera l'autre, mais comme notre Seigneur dans l'Évangile disait lui-même, ils seront tous enseignés de Dieu. Pour moi, c'est quelque chose de précieux. Pas un frère enseignera les autres. Je vais vous lire cela. L'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 45. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. » Tous seront enseignés de Dieu. Oui, comment est-ce que Dieu nous enseigne? Où est son séminaire? Où est son école? Où est-ce qu'il enseigne? Où est son siège d'enseignant? Beaucoup se sont assis dans la chaire de Moïse, dans la chaire des apôtres. Mais où est-ce qu'il y a des hommes qui sont assis au pied de Jésus, dans toute l'humilité, courbés, s'assied là pour écouter les paroles bénies de sa bouche? Et de lui, il est dit, personne n'a jamais un homme à parler comme cet homme. Son enseignement contenait l'autorité divine et en était accompagné. Pas le ton de la voix, mais la puissance de la conduite divine et de la puissance de la preuve divine et de la révélation. C'est ce qui a saisi les hommes. Ce que ces docteurs-là, qui eux-mêmes étaient vides, il y a un jeu de mots aussi qu'on ne peut pas dire en français, et pouvaient enseigner, n'a pu produire quoi que ce soit à qui que ce soit. Donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais ce que notre Seigneur a dit, et dit encore aujourd'hui, ce n'est pas vide. C'est plein, c'est rempli. C'est pour cette raison que nous croyons à un plein évangile. Et s'il y a quelqu'un qui a quelque chose qui manque dans notre évangile, ça veut dire qu'il n'est plus plein. Il n'est plus plein. Donc s'il n'est plus plein, si quelque chose manque, ce n'est plus le plein évangile. Rien ne doit manquer jusqu'à la dernière promesse que Dieu nous a donnée pour ces jours. Mais aussi en ces choses-là, nous aurons nos difficultés. Car là, frère Branham a de nouveau encore à 100% raison. Et peut-être que je devrais, ici de la plateforme, le dire pour éclaircissement. Beaucoup de choses ont été diffusées par rapport à frère Branham, des choses ne venant pas de lui-même, qui ne sont jamais sorties de sa bouche. Et là, que Dieu puisse en tout temps nous accorder la grâce pour faire la différence de toutes ces choses. Nous savons qu'il disait clairement, les hommes n'ont jamais changé. Ils restent toujours les mêmes. Ils louent Dieu pour ce qu'il a fait. Et attendent, s'attendent à ce qu'il va faire encore. Mais ils passent à côté de ce qu'il fait dans leur temps. Et ça, que cela ne nous arrive pas. Pourquoi est-ce que nous sommes orientés à la parole prophétique? C'est pour avoir l'orientation justement. Pour savoir comment est-ce que le chemin de Dieu est dans tout ce désordre et cette confusion dans laquelle nous sommes et nous vivons. Et pour dire avec joie, avec Pierre, nous tenons en possession de plus et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Paul aux Galatiens, tout de suite au premier chapitre, au verset 11, a écrit et dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi, en allemand, de manière fiable, n'est pas de l'homme, fiable, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. L'évangile qui a été annoncé par moi de manière fiable. L'évangile fiable. Qu'est-ce que c'était? Être enseigné par Dieu. Quand qu'il fut enseigné par Dieu? Après qu'il ait eu une rencontre avec Jésus-Christ, avec le Seigneur. Et lui-même, il a été pris dans une responsabilité, car il demandait, Seigneur, qui es-tu? Et le Seigneur lui a donné la réponse. Je suis Jésus que tu persécutes. Et c'est ainsi qu'il est devenu un outil élu. Et maintenant, il est demandé à l'Église de découvrir la parole déterminée pour ce temps, que ce soit dans l'Ancien ou bien dans le Nouveau Testament, de découvrir ces Écritures pour notre temps par la révélation, joindre ces paroles-là, l'autre, donc l'une à l'autre, par révélation, jusqu'à que un concept, une image complète apparaisse par la grâce de Dieu. Et je crois que le Seigneur veut produire cela, car la foi vient de la prédication et la prédication vient de la parole de Dieu. Combien de temps encore est-ce que nous avons entendu et nous-mêmes nous avons prêché que tel que c'était du temps de Noé, c'est ainsi que ce sera dans les jours du Fils de l'homme. Et est-ce que nous avions eu de la révélation là-dessus? Non, nous n'avions pas cette révélation là-dessus. Et subitement, un homme de Dieu apparaît et le Seigneur nous accorde la clarté pour comprendre de quoi il s'agissait autrefois du temps de Noé. Et de la même manière, il est écrit aussi tel que c'était du temps de Sodome. La plupart des prédicateurs, n'est-ce pas, se sont fixés sur la partie incrédule, n'est-ce pas? Ils mangeaient et ils buvaient, ils se mariaient. Ça, nous le faisons encore jusqu'à aujourd'hui. Il ne s'agissait pas de ça. Qu'est-ce qui s'était passé avant que Sodome et Gomorre soient brûlés? Le Seigneur s'était révélé à Abraham dans Genèse 18. Et au verset 17, le Seigneur dit, comment est-ce que je pourrais laisser garder caché à Abraham ce que j'ai comme intention de faire? Abraham était un prophète. Et la parole du Seigneur vient toujours aux prophètes. Et Dieu, le Seigneur, ne fait rien sans avoir premièrement révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Cela est encore écrit dans Amos 3, verset 7. Si ce n'est que vous l'avez barré. Et malgré tout, ça reste là écrit, là où c'était écrit avant. Et il n'y a aucun homme qui pourrait passer à côté de cette réalité et dire, nous sommes ici aujourd'hui et nous allons le faire, malgré tout. Oublions cela, il y a des milliers et encore des milliers, chaque évangéliste, chaque dénomination, tous ont essayé et le font encore jusqu'à aujourd'hui. Non, Dieu envoie ses serviteurs, les prophètes. Pourquoi? Est-ce que Paul écrit aux Éphésiens et dit que l'Église est même bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire? Dans le royaume de Dieu, chacun n'a pas le droit de bâtir son propre royaume. Le royaume de Dieu, à la fin, restera royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il n'y a qu'un seul roi. Et il est le roi dans ce royaume. Et ça, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce qu'il fait, c'est bien fait. Ce qui est important seulement, c'est que nous puissions nous soumettre et nous inclure dans cette volonté divine et par cela, dans ce qu'il fait. Et samedi soir, nous avons lu cette parole précieuse ici, que l'Église a été inclus dans le mandat divin. Jésus-Christ lui-même disait, tel que le Père m'a envoyé, c'est ainsi que je vous envoie. Et celui qui vous écoute, m'écoute. Qui étaient ces hommes? Quelqu'un qui était assis, des gens qui étaient assis au pied de Gamaliel? Non. Non. Des gens qui ont été appelés, envoyés avec un message. Et il est écrit, comment quelqu'un peut prêcher sans être envoyé? Romains chapitre 10. La prédication vient de la parole de Dieu. Mais la foi qui subsistera devant Dieu ne vient pas d'une interprétation humaine ou bien d'une interprétation des Écritures. Et cette foi doit être la foi biblique. Et la foi biblique peut que venir d'une prédication biblique. Et pour cela, Dieu a justement envoyé son serviteur le prophète. J'aurais pas honte de le dire jusqu'au dernier jour de ma vie. Aussi certain que le Seigneur avait envoyé un Jean, un Paul, et ses serviteurs et ses prophètes. Aussi certain, il a envoyé Frère Branham, pas avec un nouveau message, mais avec la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22, pour ramener le cœur des enfants de Dieu de nouveau à ce que Dieu avait dit. Et là, nous sommes de nouveau, à ce que nous avions considéré cet après-midi. Et ce matin. Le Seigneur appelle à sortir, selon 2 Corinthiens 6. Et ceux-là qui sont appelés à sortir, ce sont ceux-là qui maintenant prêteront l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église. Tous les autres ne l'écouteront pas. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3, 7 fois, dans chaque écrit aux églises, nouvellement, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et en ce qui concerne cela aussi, nous avons déjà eu à parler de ça. Chaque évangéliste aujourd'hui peut dire « L'Esprit m'a parlé » et chacun va dans sa propre direction. L'Esprit prend la parole. L'Esprit de Dieu ne va jamais aller au-delà de ce qui est écrit dans la parole. Il ne va pas non plus mépriser et s'en détourner. L'Esprit de Dieu qui a inspiré la parole de Dieu va la vivifier. Par la prédication, nous l'écoutons et par l'Esprit, cela nous est vivifié personnellement à chacun. Alors, ce n'est plus une écoute avec ses oreilles humaines, mais une écoute avec le cœur. Et alors la parole qui est écrite dans Matthieu 13 nous va dans le cœur que le Seigneur autrefois a adressé à ses disciples. Et aujourd'hui, c'est à nous qu'il adresse cela. Dans Matthieu 13, au verset 10, il est écrit, « Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Nous ne pouvons rien faire contre cela. Nous n'avons aucune influence à ce que Dieu fait. Mais il y a une chose que nous avons, une possibilité que nous avons, et elle consiste à ce que nous puissions prendre la bonne décision devant Dieu et enterrer notre propre sagesse. Paul, une fois, a pu dire, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ici, il y a deux groupes qui nous sont décrits. Les disciples sont venus à leur maître et ont dit, pourquoi est-ce que tu leur parles? Pourquoi tu leur parles en parabole? Pourquoi tu leur parles en parabole à la foule? Seulement en parabole. Et ensuite, le Seigneur leur donne la réponse. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Nous ne pouvons pas demander, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu as fait ceci à l'un et pas à l'autre? Le Seigneur avait parlé en général à toute la foule. Ils avaient tous la chance d'accepter ou bien de rejeter. Vous savez en quoi est la différence? Les uns sont restés pieux et religieux tels qu'ils étaient. Et ce qu'ils avaient appris, ils n'ont pas voulu le perdre et l'abandonner. Mais les autres se sont frappés la poitrine et ont dit, « Oh, jamais un homme a parlé comme cet homme parle. » Et c'était une prédication avec autorité divine. Et la même chose a lieu encore dans ces jours. Dans le même chapitre, Matthieu 13, il est écrit au verset 15, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ça, c'était ce groupe. Ils ont écouté le Seigneur. Ils ont tout vu, tout vécu, ce qui se passait autrefois. Et malgré tout, ils sont restés tels qu'ils étaient. Ils n'ont pas changé. La parole n'a pas atteint leur cœur. Elle n'est pas devenue une révélation divine pour eux, très personnellement. L'autre groupe, dont ici, au verset 16, il est écrit, « Mais heureux sont vos yeux. » En allemand, « Mais bénis sont vos yeux parce qu'ils voient. » ça, c'est l'autre groupe. « Et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Si aujourd'hui je dis qu'un Mahomet qui faisait sa grande campagne en 632 croyait être le prophète de Malachie pour amener le cœur des enfants de nouveau à leur père, que c'est peut-être donc qu'il a commencé une grande campagne et pensait qu'il était cet homme élu de Dieu. Quand j'ai lu ça moi-même dans le Coran, j'ai pas pu croire à ce que mes yeux lisaient. Mais à Lagos, au Niger, je l'ai lu de moi-même. Et il y a eu tout un nombre de personnes qui ont apparu et qui prétendaient « Je suis cet homme de Malachie, ce prophète de Malachie. » Jusqu'à même John Dalek, jusqu'à aussi à la fin du dernier siècle passé. Et qu'est-ce que c'était? C'était des hommes, même Alexander Davy a prétendu être ce dernier prophète selon Malachie. Et aujourd'hui, chacun peut dire, oh vous là-bas, avec votre William Branham là, hein, vous êtes comme ces gens-là qui suivent un homme qui prétend être quelque chose. Non, justement, parce que c'est dans nos jours que l'heure de Dieu est venue. Cette heure de Dieu n'existait pas, n'était pas venue il y a 1400 ans. Ou bien 200, 300, bien 100 ans. Mais l'heure de Dieu est maintenant. Pas dans les siècles passés. Et c'est peut-être raison que Dieu a accordé sa grâce pour qu'un retour dans la parole de Dieu fut possible. Et vous savez en quoi consiste cette différence éloignée du ciel et de la terre? Tous ces hommes ont leurs disciples qu'ils ont liés à leur personne et liés à ce qu'ils interprétaient et disaient. Frère Branham disait « Examinez tout ce que je vous dis avec la parole de Dieu pour voir si c'est exact, car je suis qu'un homme. » La parole de Dieu reste la vérité éternelle. Il n'a pas lié les gens à sa personne et à sa suite à le suivre, mais il les a conduits à Christ en prêchant le vrai évangile. Mais nous pouvons, n'est-ce pas, changer les choses, toutes ces choses, même lors de la première venue de Christ. Beaucoup ont apparu qui ont dit « Je suis, je le suis ». Et le dernier était aussi un Judas. Et qu'avec 400 personnes à sa suite, et il a dit « Je suis quelque chose de grand ». Mais bien aimé, qu'est-ce que Frère Branham a dit? Je ne peux rien faire comme vous tous qui êtes assis là-bas. Si Dieu ne m'aide pas, je ne peux rien faire. Est-ce que cela est en accord avec les Écritures? Oh, le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est comme presque un blamage. Il attend pendant le film, la vidéo du film. Et vous savez, il disait, vous savez ce que j'attends. Et subitement, l'attente s'était passée. Et c'était visible de voir comment est-ce que la présence de Dieu l'a saisi. Subitement, visiblement. Et subitement, la confirmation divine a été manifestée. Mais bien aimé, nous sommes prêts, avec l'aide de Dieu, même si ce ne sont pas des nageurs, à nager contre le courant, car la puissance de Dieu nous accordera la force nécessaire pour surmonter toutes choses jusqu'à la fin. Je n'ai pas de soucis concernant les choses qui sont dites sur nous de mal. Si ces choses-là nous rapprochent encore plus l'un de l'autre, les uns des autres, alors tout est en ordre. Donc les accusations plus fortes doivent nous arriver afin que nous soyons forgés tous ensemble et que Dieu puisse ainsi que Dieu puisse ensuite se manifester. Et toutes ces choses-là, nous les avons faites par la grâce de Dieu. Et c'est en examinant les Écritures que nous les avons faites pour voir si tout est exact. Et nous ne l'avons pas fait pour regarder les autres d'en haut et mépriser les autres, car toute l'honneur et la gloire appartiennent de toute façon au Seigneur et à aucun homme. Et Paul écrit aux Corinthiens et il dit, ne vous glorifiez pas dans des hommes, car qu'est-ce qu'est Paul? Qu'est-ce qu'est Apollos? Et que sommes-nous tous? L'un a planté, l'autre a arrosé, pas arraché, arrosé. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent avoir la parole. Au lieu ensuite d'arroser, ils arrachent. Au lieu de se réjouir sur la semence pure qui a déjà été semée, ils courent après les gens et ils veulent parler avec eux, comme s'ils avaient quelque chose à leur dire. J'ose ici prétendre, celui que les pieds encore démangent et celui dont la langue vise à saisir son prochain pour pouvoir l'enseigner, ça veut dire que lui-même n'a pas encore été enseigné par Dieu. Il n'a pas encore compris de quoi il s'agit. C'est pas un qui enseignera l'autre, mais tous seront enseignés de Dieu. Ce ne sont pas nous qui saisissons un ou bien l'autre, qui rassemblons des adresses et contactons les gens. Nous nous laissons saisir par Dieu et toucher par lui. Et nous disons, Seigneur, me voici. Avec mon... Je ne peux plus rien dire. Et c'est ainsi aussi avec ma sagesse. Je n'en ai plus. Sois ma sagesse et tout ce dont j'ai besoin. La norme pour tester un ministère, ce n'est pas ma connaissance ou bien ta connaissance, mais c'est tout le témoignage de cette écriture. Voici la norme pour tester un ministère. Sans contradiction et erreur, tout doit être en accord, total, parfait. Et là, nous pouvons, avec une bonne conscience, dire que Dieu a trouvé l'outil le plus humble et simple dans notre génération. Un homme qui n'était pas venu avec sa propre sagesse, son propre savoir, mais qui avait reçu la grâce de Dieu, qui avait été mandaté et envoyé comme Jean autrefois. Ainsi, il est venu, il a été envoyé dans ce temps. Et pour cela, nous sommes de tout notre cœur et de toute notre âme reconnaissant. Tous ceux qui sont enseignés par Dieu l'acceptent et le reçoivent et remercient le Seigneur pour cela. Et par la grâce de Dieu, seront conduits dans toute la vérité par le Saint-Esprit. Et ce que est quelque chose dont nous ne voulons pas. Nous n'en voulons pas. Que le Seigneur puisse, à la fin de cette réunion, inonder nos cœurs de reconnaissance et nous accorder un cœur obéissant et croyant. Et pour que les choses que nous avons reçues, nous ne puissions pas comme ça les prendre à la légère, mais comme de la main du Seigneur, notre Dieu, tel qu'il nous les a accordés. Et je crois que nous le faisons tous. Pas parce que nous avons été persuadés par des hommes, persuadés par un homme, mais parce que Dieu, dans sa parole et dans sa volonté, nous a inséré, introduit, loué et exalté, soit le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous pour encore ensemble remercier le Seigneur. Père céleste, nous te remercions de la plénitude de notre cœur pour ta parole puissante que nous avons de nouveau entendue, que nous pouvions encore entendre. Ta parole est esprit et elle est vie, Seigneur. Nous sommes heureux de ce que, de cette manière, comme pour exhorter, pour corriger, pour reprendre, Seigneur, pour montrer ce qui est important. Nous ne pouvons rien faire d'autre que d'élever ton Saint-Nom, te louer, t'apporter l'adoration. Notre Dieu, tu nous connais. Qui sommes-nous, Seigneur? Nous sommes que des hommes oublieux et faibles. Mais Seigneur, tu nous as fait grâce, heure après heure. Tu nous conduis, tu nous diriges dans ta vérité. Ô Seigneur, parfois nous ne pouvons même pas le saisir. Pourquoi est-ce que c'est à nous que ces choses ont été accordées? Pas parce que nous nous sentions mieux que les autres. Non. Mais c'est ton amour. C'est ta grâce. C'est ta miséricorde avec nous, Seigneur. Et c'est pour cette raison que nous te louons, nous t'exaltons. Encore maintenant dans ces heures. Nous te remercions ensemble pour cette réunion, pour cette heure d'édification, de correction et de consolation que tu nous as accordé par ta grâce. Seigneur Dieu, nous te demandons aussi, sois avec nous, continue à être avec nous, et aussi avec tous ceux qui sont venus pour avoir communion ici ensemble avec toi et avec nous. Nous t'adorons et louons ton merveilleux nom. Enseigne-nous à comprendre que nous sommes arrivés à la fin et que nous ne devons pas seulement être des gens qui écoutent ta parole, mais aussi la mettre en pratique comme tu l'as ordonné dans ta sainte et précieuse parole. Reçois la louange de mon cœur et de nos cœurs à tous. Je te remercie pour cela dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Nous nous asseyons. Loué et exalté soit notre Dieu pour toutes ces paroles précieuses. Je crois que tous, nous sommes réjouis et nous sommes bénis par toutes ces paroles et par cet enseignement que nous avons reçu par la grâce de Dieu. Nous ne l'avons pas mérité, mais Dieu nous a accueillis dans sa grâce et nous parle. Ça n'a pas d'importance ce que les gens pensent. Ce que les gens pensent, c'est tout de manière différente que ce que Dieu pense. Et ça, nous le voyons par toutes les Écritures, les Saintes Écritures, et nous sommes heureux de ce que nous pouvons prêter nos oreilles à sa voix et nous détourner de ce que les hommes disent et pensent, et que nous puissions nous attacher à lui, notre Seigneur, et marcher avec lui pas à pas, jusqu'à que nous sommes passés de la foi à la vie. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes heureux de ce que Dieu nous accorde encore cette grâce, encore ce temps de la grâce, et que nous pouvons encore ainsi tous venir nous rassembler, même si ce n'est pas souvent, mais quand nous venons, alors c'est quelque chose de merveilleux et quelque chose de glorieux. Et ainsi que Dieu puisse être avec vous tous, c'est ma prière profonde et mon désir. Nous, ici, en cet endroit, nous prions toujours pour vous, vous qui ne pouvez pas toujours être ici. Et aussi, notre demande, c'est que vous puissiez aussi prier pour nous, ainsi, pour que nous puissions ainsi prier les uns pour les autres devant la face de notre Dieu et lui demander sa force et son soutien. Nous voulons maintenant venir à la fin, vous qui avez encore un long trajet de retour et pour y repartir alors qu'il fait encore jour. Chantons encore un cantique ensemble. Chantons le cantique 263. Certitude divine, Jésus est mien, me remplit de rayons célestes. Remplit mon cœur de rayons célestes. Assurance divine, Jésus est mien. Mon cœur se remplit d'un rayon céleste. Né de nouveau, libéré du péché, enfant de notre Dieu. Ça, je veux le chanter pour l'amour de Jésus, pour l'honneur de Jésus. Il est ma gloire, lui et lui seul. Ma vie, mon rayon de soleil. Ô toi, mon tout. Toi, toi seul. À tes pieds, c'est déjà la gloire sur terre. Je vois le ciel déjà ouvert devant moi. Fleuve d'amour, fleuve de grâce. Se répand dans mon cœur du lieu céleste. Ça, je veux le chanter pour la gloire de Jésus. Il est ma gloire, lui et lui seul. Amour et vie, rayon de soleil. Ô toi, mon tout. Toi et toi seul. En attendant et veillant, je regarde vers le ciel jusqu'à ce que mon âme sois complètement caché en toi et que je sois rempli de la nature du ciel. Alors je serai transformé complètement à ton image. Sing. Ça, je veux le chanter pour la gloire de Jésus. Il est ma gloire, lui seul. Paix et vie, rayon de soleil. Toi, mon tout. Toi, toi seul. Nous voulons encore ensemble nous lever pour la prière commune. Dieu Tout-Puissant, fidèle, que tu puisses demeurer pour nous tout en tout. Tel que nous avons chanté, lumière et vie, mon rayon de soleil, ô toi mon tout, toi seul. Seigneur, je te remercie pour mes frères et pour mes sœurs, pour tous ceux qui sont venus, Seigneur, je te demande en même temps, sois avec eux maintenant, alors qu'ils retournent à la maison, bénis-les et accompagne-les pas à pas. Bénis aussi leur maison, leur famille. Bénis tous ceux qui ne pouvaient pas venir, ô Dieu. Sois avec tous et que ta gloire soit accordée à tous. Nous te remercions encore une fois ensemble pour ta sainte et précieuse parole. Car ta parole, si ta parole n'était pas une lampe sur notre sentier, nous ne pourrions pas nous tenir ici encore ici aujourd'hui. Mais parce que ta parole nous a conduits, parce que par ta parole, tu nous ça montre toujours le chemin. Alors nous sommes heureux et reconnaissants et nous sommes ici. Et bientôt nous serons auprès de toi. Adoration et honneur soient apportés à ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Alléluia, sois glorifié. Alléluia, amen. Alléluia, sois glorifié. Tu nous as bénis.
Amen.
Amen.